France Musique.
Par nature, par Bécart et par bémol. En 1532, l'idée d'écrire la chronique farcesque du géant Pantagruel vient à Rabelais lorsqu'il découvre le succès de vente de ses chroniques populaires. En particulier lors des périodes de foire de la ville de Lyon. Installé dans la ville depuis quelques mois, il exerce comme médecin à l'Hôtel-Dieu. Pantagruel paraît alors chez Claude Nourry, imprimeur lyonnais sous le pseudonyme de Rabelais, Alcofribas Nazier. Sorti des mystères du XVe siècle, son héros Pantagruel incarne le plaisir de vivre, mais aussi l'enthousiasme et l'idéal des humanistes pour la culture et la sagesse antique. Rabelais expose alors son idéal pédagogique en s'opposant aux conceptions médiévales. Avec une verve d'ironie incomparable, Rabelais s'attaque à la mauvaise éducation de ce temps-là. Venu au monde dans les dernières années du XVe siècle, Rabelais connaît les vices de l'enseignement théologique et philosophique du Moyen-Âge, dont le règne n'est pas terminé, et les travers de la Renaissance, dont les beaux jours commencent. Avec une fermeté de raison qui étonne au milieu de pareils excès d'imagination, Rabelais esquisse, déjà à grands traits, un plan d'éducation moderne où l'on découvre son rêve d'une connaissance universelle et totale. Il tourne alors l'esprit du jeune homme vers des objets vraiment dignes de l'occuper. Il entrevoit l'avenir réservé à l'éducation scientifique. Il convie l'esprit, non plus aux laborieuses subtilités, aux artifices compliqués que la scolastique avait mis à la mode, mais à l'exercice physique, à un large épanouissement de la nature humaine, à la connaissance de la vie pratique et à la musique. Négligeons les folies du début. La naissance de Gargantua par l'oreille gauche, la description de sa layette, les premiers signes d'intelligence qu'il donne à son père Grand Gousier. De 3 à 5 ans, il passe son temps comme les enfants du pays, à boire, manger et dormir. À manger, dormir et boire. À dormir, boire et manger. Rabelais, qui jusqu'à sa mort ne dédaigne aucune de ces trois choses, ne semble pas trouver mauvais cet épicurisme de la première enfance. Gargantua est né, comme Rabelais lui-même, dans la dernière moitié du XVe siècle. On commence donc par l'élever d'après les méthodes traditionnelles. À 5 ans, émerveillé de ses dispositions, Grand Gousier le confie à un grand docteur sophiste nommé Maître Tubal Holoferne. Puis à un autre vieux tousseux, Maître Yoblin Bridé. Gargantua reste plus de 20 ans entre leurs mains, apprenant si bien les livres où il étudie qu'il était capable de les réciter par cœur au rebours. Il travaille de toutes ses forces et met tout son temps à l'étude. Et cependant, son père s'aperçoit que rien ne profite. Et qui puisait en devient fou, niais, tout rêveur et rassauté. Tel est l'effet que Rabelais attribue aux leçons des pédants dogmatiques. Sous cette discipline inintelligente qui surcharge la mémoire d'une érudition indigeste, qui emploie de longues années à étudier sans profit des livres insipides tels que le Moyen-Âge en avait produit en abondance, l'esprit perd toute initiative, toute spontanéité. Il s'hébète au lieu de se dégourdir, il ne sait plus penser avec simplicité, ni parler avec franchise. En homme de la Renaissance, épris des chefs-d'œuvre de l'Antiquité, Rabelais s'indigne, ou plutôt se moque, car l'indignation prend presque toujours chez lui la forme de l'ironie, et la colère se traduit par des éclats de rire. Il se moque donc de cette littérature pédante qui n'a guère mis au jour d'œuvres originales, mais où pullulent les commentaires et les interprétations verbeuses. Ainsi, au chapitre 7 du livre 2, le catalogue fantaisiste de la librairie de Saint-Victor ne comprend aucun titre authentique. Mais en mêlant quelques noms d'auteurs connus avec des mots imaginaires, Rabelais essaye de nous donner une idée de ses innombrables productions scolastiques. Entre mille autres inventions burlesques et à côté d'excentricité qui dépasse toute mesure, Rabelais, pour caractériser les dissertations des théologiens et des maîtres de la jeunesse d'alors, trouve des expressions comme « barbouilla mentas coti ». Ce seul mot en dit plus long que toute une tirade. Au résultat de cette éducation artificielle qui retient Gargantua pendant 18 ans et 11 mois sur le « De modis significandi », Rabelais oppose les effets d'une éducation naturelle qui fait appel à l'expérience et aux faits, qui forme le jeune homme non pas seulement pour les discussions théologiques, mais pour la vie réelle, pour les conversations du monde, qui enfin sait instruire et développer l'intelligence sans étouffer les grâces, la gentillesse, la liberté native de l'esprit. Au jeune Gargantua, qui a pâli sur les livres et les traités théologiques et philosophiques et qui n'y a rien appris en 20 ans, il oppose le jeune Eudémon, qui en 2 ans, grâce aux méthodes nouvelles, s'est habitué à s'exprimer avec aisance, à penser avec justesse, qui se présente sans hardiesse, mais avec assurance, et non plus les yeux baissés, comme les professeurs du Moyen-Âge le recommandaient à leurs élèves. Le modèle, enfin, de l'adolescent accompli, instruit sans pédantisme, modeste sans timidité, tel que nous nous représentons les jeunes Grecs du temps de Socrate et de Platon. Gargantua décide alors de confier son fils à Ponocrate, le maître du jeune Eudémon, pour qu'il reçoive entre ses mains l'éducation nouvelle. Remarquons-le, c'est à un précepteur unique que Rabelais confie l'éducation de son élève, comme Rousseau fera plus tard pour son Émile. Quand Ponocrate, le nouveau maître de Gargantua, découvre sa fâcheuse manière de vivre, il décide de le former aux belles lettres d'une autre manière. Pour mieux commencer sa tâche, il prie un savant médecin de ce temps-là, nommé maître Théodore, de remettre Gargantua en meilleure voie. Le médecin le purge, selon les règles, avec de l'hélébore d'anticyre, une herbe qui passe alors pour remède à la folie. Grâce à ce médicament, il lui nettoie le cerveau de tout vice et de toute mauvaise habitude. Par ce moyen, Ponocrate lui fait aussi oublier tout ce qu'il a appris avec ses anciens précepteurs, comme le faisait autrefois Timothée, avec ses disciples qui avaient été formés par d'autres musiciens. Celui que l'on nomme le Stravinsky des Grecs osa en son temps détacher les notes avec une grâce singulière, brisant rythme et harmonie de jadis. François Rabelais a grande connaissance des compositeurs de son temps. Il ne cite pas moins de 56 noms dans le prologue du Carlivre. Cet ecclésiastique, médecin, écrivain, juriste et érudit connaît très bien la musique et il fait donc apprendre à son héros principal à jouer de plusieurs instruments, le luth, l'épinette, la harpe, la flûte traversière et la flûte à 9 trous, de la viole et de la sacque-boute. Ainsi, Pantagruel prend goût aux sciences mathématiques, comme la géométrie, l'astronomie, mais aussi à la musique, considérée, oui, comme une science mathématique. Il s'amuse alors à chanter sur une musique à 4 et 5 parties ou à faire des variations vocales sur un thème. Car au Moyen-Âge, tout écolier apprend à chanter sur le dessin de la paume de la main où figurent les sons et leurs nuances. Qui ne connaît pas la main harmonique est alors traité d'ignorant par nature, par bécard et par bémol. Alors quand Ponocrate conduit son disciple à Paris, il se garde bien de faire suivre à Pantagruel les cours de l'université. Encore moins l'enferme-t-il dans ce triste collège de Montaigu, dont la discipline de fer était devenue célèbre. Si Rabelais rend hommage à la ville, qui était déjà pour la France le centre et le foyer des Lumières, il fait toutefois dire à son héros au chapitre 6 ce qui est devenu une formule. « Vous savez bien que le peuple de Paris est sot, par nature, par bécard. » et par bémol.
À réécouter sur francemusique.fr.